placa de batterie.
C'est pas du vent, mais c'est l'émission de l'environnement chez RFI. C'est vrai. C'est vrai.
Bien, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Sourad, je suis Green Ambassadeur et en plus je suis les éco-guides marines. Ce que vous voyez ici, c'est une zone marine volontaire de conservation. C'est la zone plus belle qu'on peut dire pour les lagons. Et ça, on vous emmène pour visiter.
Si vous nous rejoignez, nous sommes à l'île Maurice, sur cette île carte postale de l'océan Indien qui a accueilli plus d'un million de touristes l'année dernière. C'est presque autant que le nombre d'habitants. Avec 115 hôtels, des chambres d'hôtes et des villas plus ou moins luxueuses à louer, le tourisme est un véritable pilier économique pour l'île. Des magnifiques plages, un lagon éblouissant et une biodiversité foisonnante, voilà pour le slogan. Mais ce patrimoine a été maltraité et aujourd'hui, le gouvernement mauricien s'interroge sur son modèle de développement. Il faut impérativement préserver ce qui reste. Nous avons rendez-vous tout au nord de l'île, à Anse-l'Arrêt, près du Cap Malheureux, à l'hôtel Zilois Attitude, pour une sortie en mer.
Souradj, là, ça y est, on est dans le bateau.
On va sur la zone marine volontaire des conservations. Là, on va vous montrer des coraux et des variétés des poissons qu'on va vous expliquer un peu.
Allez, c'est parti. Souradj, là, ça y est, on est arrivé sur la zone de conservation.
Oui, voilà, on est là. On est déjà arrivé. Oui, et là, comme vous pouvez voir la différence des coraux, peut-être vous pouvez voir même des saisons majeures qui arrivent là.
Plein de petits poissons rayés, noirs et blancs. Et donc, nous sommes avec deux membres de l'ONG Reef Conservation qui travaillaient avec le groupe Hôtelier Attitude sur la création de cette zone et sur donc cette politique de conservation. Bonjour, vous êtes Eugène, vous êtes l'un des patrons de l'ONG?
Non, mais je suis un des membres de l'ONG. Et déjà, une année que ça existe, et déjà, on voit une amélioration super.
Donc là, pour arrêter de parler avec le moteur, on va aller s'amarrer à une bouée. Ça, ça fait partie de votre politique de sensibilisation aussi.
La première chose qu'on a fait, on a essayé d'obtenir l'aide des pêcheurs pour ne pas pêcher sur ce coin-là. Et les pêcheurs qui ne pêchent plus deux ans, on a donné une petite formation pour qu'ils puissent venir avec des gens pour visiter l'endroit. Et en faisant ça, on a placé deux bouées où ils jettent plus l'ancre, ils s'amassent carrément sur ces bouées. Alors les pêcheurs, ils viennent maintenant, ils amènent des touristes, ils gagnent la vie comme ça, et c'est un grand plus pour eux.
Alors on va aller s'amarrer. Ça y est Eugène, on a arrêté le moteur, c'est un peu plus calme, on entend la mer, parce que juste au loin, il y a la barrière hein, du lagon. Vous disiez que vous avez convaincu les pêcheurs de ne plus venir pêcher dans cette zone. J'imagine que ça a été difficile, ça.
C'est très, très difficile à faire, très difficile à faire. La façon qu'on a pu le faire, c'est parler aux pêcheurs, le faire dire eux-mêmes qu'il n'y a plus de poissons. Alors, de donner une idée comment on va pouvoir faire pour que les poissons reviennent. C'est eux qui ont proposé, peut-être qu'on va devoir faire une réserve, parce qu'on avait ça dans la tête déjà. Et de là, on est parti. Beaucoup de réunions, beaucoup de campagnes de sensibilisation et réunions avec les pêcheurs, donner leur accord, finalement, de le faire. Et ceux qui n'étaient pas d'accord maintenant, ils sont d'accord parce qu'ils ont vu les changements qu'il y a eu et ils demandent de faire plus grand.
Vous n'avez pas interdit, par contre, le survol de la zone, hein?
Malheureusement, non. En fait, c'est une zone qui est faite pour tout le monde. Hein. On peut venir, on peut tout faire ici, sauf pêcher. On va voir comment ça s'améliore, comment ça se développe. Et puis de là, peut-être qu'on va pouvoir donner un petit coup de pouce à gauche et à droite et faire les choses. Parce que la nature, quand c'est détruit, c'est détruit. Il n'y a personne qui va pouvoir remettre la nature en place. Parce que nous, on est là pour détruire, n'est pas pour ranger, n'est pas Dieu ni le docteur.
Cette zone de conservation, elle fait à peu près 8 hectares et vous avez formé combien de pêcheurs aujourd'hui? Enfin, du coup, converti combien de pêcheurs?
15 pêcheurs, hein, dans 2-3 villages. Et après aussi, beaucoup de gens qui n'étaient pas pêcheurs, qui étaient un peu faire des sorties loisirs avec des clients, et aussi ils ont bien bénéficié de ça, et aussi beaucoup des gens de l'hôtel qui ont eu une formation qui fait que ça fait vraiment énorme, qui nous aide à maintenir ce truc-là.
Et Souraj, quand vous expliquez tout ça aux touristes, vous les sensibilisez à l'importance de la conservation, à ne pas se comporter n'importe comment vis-à-vis des coraux, pas marcher dessus, vous leur dites quoi?
Disons, s'ils descendent pour la plongée, même des fois avec la marée basse, qu'on peut voir la barrière, là, il n'y a pas beaucoup de l'eau. Il y a des gens qui aiment se mettre debout pour regarder, et ça, on leur dit de ne pas faire, parce que ça abîme les fonds. Et même pour ne pas toucher les coraux, et même... au niveau des coquillages, tout ça, on les interdit de ramasser. Même si c'est mort ou c'est vivant, on les interdit pour ramasser. Et même pas donner n'importe quoi à manger aux poissons aussi.
Ils comprennent bien, les touristes?
Oui, oui, ils comprennent bien.
Et dans l'un des hôtels du groupe Attitude, là, juste l'hôtel Blue Marine à côté, on va aller voir un centre éducatif et interactif de sensibilisation à la préservation de l'environnement marin.
Voilà, oui, c'est bien ça. Vous allez voir, on a un aquarium, on a un petit laboratoire, on a beaucoup de choses là-bas. L'aquarium nous aide énormément à sensibiliser les gens, surtout les petits mauriciens qui connaissent rien de la mer. Alors quand ils voient les poissons, les coraux, les trucs du pré, là, ils arrivent à comprendre c'est quoi ce truc-là. La semaine dernière, j'ai eu une personne, un adulte qui est venu, qui m'a dit que c'est la première fois qu'il a vu un corail vivant. Juste derrière nous, il y a une tortue qui remonte sa tête là. Dans l'eau là, juste derrière.
Ah ouais, la tortue là, on la voit, ouais. On voit la tête qui dépasse.
Ça, c'est une chose qui est revenue.
C'est une plaque de
plaque. Bonjour.
Bonjour les amis, alors la balade était sympathique.
Oui, c'était bien, merci. Bonjour, vous êtes le directeur du groupe Attitude, c'est ça?
C'est cela, je m'appelle Jean-Michel Piteau, je suis directeur du groupe Attitude, qui a une dizaine d'hôtels à Maurice.
Alors, à l'île Maurice, il y a eu un développement touristique assez fort, hein. Ça représente quand même une part importante de l'activité économique du pays. On peut dire qu'il n'y a pas toujours été... en lien avec la préservation de l'environnement. Ça se voit un petit peu quand on se balade sur les côtes mauriciennes. Ah, vous levez les yeux au ciel. Je sens que ça vous plaît pas, ce que je dis.
Non, ça me plaît pas parce que les hôteliers sont régis par des règles assez strictes au niveau environnemental. Ça passe d'abord par les constructions, la hauteur des constructions, les limites. Il y a des limites assez importantes qui nous sont imposées par rapport à la distance, par rapport à la mer, par exemple, pour éviter l'érosion ou de la pollution. Et puis sur le type de construction, sur la hauteur des bâtiments, nous devons respecter la fameuse hauteur pas plus haute que le cocotier. Il y a certes d'autres développements à Maurice qu'on constate, comme vous le disiez très bien, qui ne sont pas des hôteliers, qui sont des développeurs, qui malheureusement passent outre quelques réglementations basiques. Et ça, que voulez-vous, on le regrette bien, mais il faut faire avec.
Et vous, vous avez dans tous vos hôtels impulsé une philosophie de préservation de l'environnement. Alors ça se traduit comment ?
Alors on a commencé à mettre beaucoup d'emphase il y a quelques années dans l'hôtel où nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle le Blue Marine. On a rénové l'hôtel il y a 5 ans et nous avons pu y aménager un endroit qui s'appelle Nauticaz, qui est un laboratoire de recherche sous-marin avec l'aide d'une ONG mauricienne qui s'occupe de cela, dont on les a donné les moyens, on a investi dans la structure et il y a 5, 6, voire 10 000 maintenant petits jeunes mauriciens qui ont passé à travers ce laboratoire, je dirais, pour apprendre justement comment préserver l'environnement marin, les coraux, l'érosion et éduquer un peu nos petits mauriciens pour que demain notre avenir soit rassuré. Donc, c'est important de faire ça parce que on est dans le tourisme, et le tourisme vient à Maurice pour la plage, pour le soleil. Donc on se disait qu'il fallait quand même s'investir dans la préservation de notre actif marin. Donc on est très fiers de ce petit centre.
Est-ce que vous avez l'impression que au niveau de vos collègues, par exemple, qui travaillent globalement dans l'hôtellerie ici à Maurice, ça émerge ce sentiment de l'importance de préserver ce patrimoine naturel? Ou est-ce que c'est une préoccupation que tout le monde ne partage pas encore?
Non, je pense que tout le monde est quand même conscient qu'il y a un effort à faire. Tout le monde est conscient que l'environnement devient la clé de demain. certains un peu moins que d'autres peut-être, certainement, mais bon, certains, tous ont une démarche qui va dans un sens comme dans l'autre, hein. Donc certains sont plus marins, d'autres sont plus terrestres, etc. Mais bon, on est tous conscients qu'on ne peut pas passer outre. Il faut savoir également, en passant, que tous les hôteliers mauriciens sont facturés sur leur chiffre d'affaires d'un pourcentage à la source qui contribue à un fonds environnemental du pays. Ça, c'est beaucoup d'argent que nous payons. Malheureusement, nous ne savons pas où va cet argent. Mais c'est une contribution quand même monétaire qui n'est pas négligeable et qui rentre dans la caisse de l'État pour eux-mêmes faire des projets environnementaux. Donc indirectement, on participe énormément à ça.
Écoute ce pas du vent chaque semaine chez RFI.
Après ces rencontres, nous sommes plutôt enthousiastes sur la capacité des acteurs du tourisme de l'île Maurice à repenser leur logique de développement en tenant désormais compte de leur environnement. Pour mieux comprendre le contexte, nous avons rendez-vous dans le centre de l'île à Quatre Bornes, dans l'apaisant jardin de Vanneron, avec Thierry Le Breton, l'un des porte-parole de la plateforme Environnement qui regroupe une quinzaine d'ONG environnementales de l'île. Première question, est-ce que les Mauriciens ont encore accès à leurs plages ?
Les plages ne sont pas toujours accessibles pour l'ensemble des Mauriciens. Il y a quelques plages qui sont décrétées publiques, mais dans la grande majorité, les plages restent sous propriété d'hôtels ou de résidences de plages, principalement les résidences de plages d'ailleurs. C'est un développement qui s'est développé comme ça depuis une soixantaine d'années, principalement.
Dans quelle proportion ?
Après une quarantaine de pourcents du bâti, qui est sur le littoral, ce sont des résidences privées. Une vingtaine de pourcents, ce sont des hôtels. Ensuite, pour le reste, il y a 8% de plages publiques, mais tout le reste, ce sont des plages qui ne sont pas vraiment utilisables ou constructibles, en fait. Ce sont des falaises ou des marais.
Donc ça veut dire qu'il y a seulement 8% des plages qui sont accessibles aux Mauriciens ?
Voilà, en gros, oui. Il y a un enjeu social, hein, une exaspération, une attente pour pouvoir avoir plus de loisirs de plage pour les Mauriciens.
Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus, ces plages se réduisent à cause de l'érosion, notamment à cause des constructions qui ont été faites.
Alors, à cause des constructions, oui, et aussi à cause de la montée du niveau de la mer, en fait, qui est montée de plusieurs centimètres. Ces derniers 20 ans, il y a certaines plages ont reculé d'une quinzaine de mètres. Il y a 50% des plages qui sont menacées d'une manière ou d'une autre. Certaines, parmi ces 50%, sont très gravement menacées. Et donc, c'est un problème à terme pour le tourisme aussi.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part du gouvernement mauricien pour essayer de faire un tourisme un peu plus durable ?
Il y a une prise de conscience de l'érosion des plages. Il y a une prise de conscience aussi de la nécessité d'avoir un tourisme durable, oui, mais il n'y a pas encore de plan directeur très clair qui soit apparu là-dessus. Les acteurs du tourisme s'investissent, mais à une échelle très microscopique, à leur propre échelle, si on veut, c'est-à-dire qu'ils n'est pas dans une vision commune et partagée. Et donc, il y a une nécessité d'impliquer davantage l'ensemble des parties prenantes, oui, dans un réseau où tout le monde participe d'un effort commun.
Entre l'impact des structures touristiques et la canne à sucre qui a recouvert jusqu'aux deux tiers de l'île, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de biodiversité authentique ici.
Oui, la biodiversité, elle est réduite dans des portions congrues. Il y a certaines forêts endémiques qui sont gardées, ça représente à peu près 2% du territoire national aujourd'hui. Et même dans ces forêts endémiques, il y a déjà pas mal d'invasifs qui s'installent, donc on essaie de contrôler. Donc ça, c'est pour la faune et la flore terrestre. Et puis il y a la biodiversité marine aussi, qui a ses propres enjeux, avec justement la mort du corail, du fait de l'acidification de l'océan, de la montée de la température de l'eau, du fait de la pollution des nappes aussi, qui fait que ça affecte aussi les lagons. Donc oui, Maurice est un pays qui est un peu un laboratoire de toute l'histoire industrielle, de toute l'histoire moderne en fait, parce que c'est une île vierge qui était complètement unique dans sa biodiversité il y a 300 ans de ça, et en l'espace de 300 ans, toute l'histoire moderne de l'agro-industrie d'ailleurs, puisque on avait un rapport à la terre qui a tout de suite industrialisé avec la canne à sucre pour faire du sucre. Donc on a eu tout de suite un rapport à la nature qui était extrêmement productiviste. toute cette histoire, on le voit sur une île qui est comme un tube à essai de tous les désastres qu'on voit sur l'échelle de la planète aujourd'hui, d'une certaine manière. On peut le retrouver sur ces 300 dernières années à Maurice. Et on s'est rendu compte de ce désastre de la biodiversité à la fin des années 70, au début des années 80. Il y a eu un peu un début de conscientisation avec quelques programmes très importants pour réhabiliter quelques espèces, qui ont très bien réussi d'ailleurs ces quelques programmes. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'autres espèces qui, dans notre histoire récente, ces 300 dernières années, ont quand même disparu. Une grande partie de la biodiversité mauricienne.
Alors, vous êtes un peu une sentinelle ici avec cette plateforme des ONG environnementales. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du tourisme à Maurice avec l'impact qu'il peut avoir ?
Alors, l'avenir du tourisme, il ne peut plus être uniquement un tourisme de plage, balnéaire, et fait dans une logique de concurrence des uns contre les autres, où il y a certains gagnants et beaucoup de perdants dans le rapport au territoire, en fait. Et donc, il faut que tous les touristes et les Mauriciens puissent partager, d'une certaine manière, les mêmes espaces. Et il faut pouvoir essayer de reconstruire des passerelles entre les touristes et les Mauriciens, mais entre les touristes et les Mauriciens et l'environnement, grosso modo.
Pour comprendre la vision des professionnels du tourisme, nous quittons le paisible jardin de Vanneron pour retourner dans la trépidante capitale, Port-Louis. Nous avons rendez-vous avec Jocelyn Co, qui est secrétaire de l'association des hôteliers et restaurateurs de Lille. Jocelyn nous attend dans la salle de restaurant de l'hôtel d'affaires Le Suffrène, ambiance climatisée. Alors, comment concilier développement du tourisme et respect de l'environnement et des Mauriciens ?
Pour nous, à Maurice, dépasser la barre d'un million de touristes était un objectif économique qu'on a longtemps poursuivi, on l'a finalement atteint. Pour nous, l'activité touristique aujourd'hui a pris une telle ampleur, elle est reconnue par beaucoup comme étant un des moteurs de la croissance. Et donc, il y a un débat, je dois l'avouer, il y a un débat public sur le meilleur équilibre à trouver entre une capacité d'accueil de touristes et une population locale avec des ressources qui sont quand même limitées. On le sait bien, Maurice est une petite île de 1800 km² et forcément, l'activité touristique d'une certaine intensité pèse sur les ressources.
Parce que finalement, il y a presque autant de touristes que de Mauriciens.
Je dirais que la pression sur les éléments de base, hein, que sont l'énergie, l'habitat et l'eau, et ainsi de suite, est assez contenue. Par contre, l'impact forcément sur les espaces verts, la zone côtière, sont forcément plus forts.
Aujourd'hui, il y a 115 hôtels sur l'île Maurice et c'est vrai que la côte est un peu à saturation. Donc les nouveaux hôtels qui souhaitent s'installer s'installent sur des zones humides ou sur des zones qui autrefois étaient vaseuses, en bricolant à coups de gros engins pour réaménager des plages, etc. Est-ce que vous avez une recommandation en la matière ?
Je crois que, oui, ça a fait débat, cette question d'aménager des hôtels dans de nouveaux endroits, à transporter du sable, on a fabriqué du sable, et, par exemple, pour aménager des plages. Il est clair que l'espace est limité et que les meilleurs sites sont déjà pris. Ceci dit, le marché, les autorités, les opérateurs en place devraient retrouver et converger sur certains aspects clés que sont effectivement ce capital environnemental et même le capital social, je dirais, de l'île Maurice par rapport au tourisme international.
En attendant que la préservation de l'environnement devienne une priorité pour les opérateurs touristiques, les Mauriciens, eux, s'organisent pour préserver leur patrimoine naturel. La Société mauricienne de conservation marine, par exemple, se bat depuis 30 ans pour limiter l'impact du développement de l'île sur le lagon. Depuis quelque temps, Jacqueline Sauzier, la vice-présidente de cette ONG, s'inquiète des conséquences d'une activité en pleine effervescence et qui rapporte beaucoup d'argent, l'observation des dauphins et des baleines.
L'activité a commencé dans les années 2000 et aujourd'hui, le chiffre d'affaires généré doit être environ 200 millions de roupies, donc environ 5 millions d'euros. Et c'est une activité qui n'est pas réglementée du tout. D'où notre combat, nous, avec les autorités, pour qu'il y ait une réglementation qui soit faite. Notre recherche sur l'impact du développement touristique de l'activité dolphin watching sur le comportement des animaux a commencé en 2006. En 2012, il y a eu une législation qui a été mise en place, malheureusement pas du tout respectée, pas du tout mise en place en pratique par les opérateurs et par l'organisme qui gère ça, cela, c'est la Tourism Authority. Et aujourd'hui, les opérateurs agissent de manière encore plus anarchique sur le terrain, puisqu'ils nous disent, bon ben, il faudrait que les législateurs mettent en place la loi pour que nous, on puisse mieux respecter l'environnement.
Ça donne quoi sur le terrain ?
Alors, pour des petites anecdotes, environ 20 dauphins avec 20 bateaux autour, une quinzaine de personnes à l'eau, tout ce monde là en même temps. Et quand les dauphins font surface sur la gauche, tout le monde va sur la gauche. 3 minutes après, ils font surface sur la droite, tout le monde bouge sur la droite. Donc, c'est vraiment du harcèlement et beaucoup trop de gens à l'eau, beaucoup trop de bateaux en même temps sur une durée qui est quand même assez courte. Il faut savoir que les mammifères marins rentrent dans la baie de Tamarin ou de Rivière Noire à entre 6h, 6h30 le matin jusqu'à environ 11h30 midi, donc c'est quand même que 4 ou 5 heures dans la journée. Ils sont là pour se reposer, pour socialiser, pour s'occuper de leurs petits. C'est un moment pour eux qui est important dans leur rythme de vie, et c'est là où il y a entre 20, 30, 40 bateaux qui viennent et qui font du harcèlement et qui les empêchent de dormir. Donc si on ne peut pas dormir, si on ne peut pas s'occuper de ses enfants, ben, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut donner pour la suite.
Pourtant, vous avez identifié les bonnes pratiques, comme on va le voir là, dans quelques instants.
Oui, elles ont été identifiées, les bonnes pratiques, les méthodes d'approche, de départ, les distances à respecter. Tout cela a été fait en concertation avec les opérateurs, en concertation avec des consultants étrangers qui sont venus, qui connaissent l'activité, comment ça se passe ailleurs, en concertation avec les autorités. Donc maintenant, on met la pression, on fait pas ce genre d'émission qui nous permettra nous aussi de faire ressortir l'urgence de faire changer cette situation-là, ou directement auprès des opérateurs, directement auprès des autorités. On l'a dit, il y a urgence en la matière.
Alors justement, pour bien comprendre de quoi on parle, vous nous avez organisé une promenade de touristes responsables, hein, pour le coup. Qui est-ce qu'on va aller voir là ?
Vous allez rencontrer un opérateur qui s'appelle Doll Swim, et je trouve que c'est très bien d'en parler, parce que c'est un opérateur qui a travaillé dans cette activité depuis les 15 dernières années. Il connaît l'environnement, il connaît les dauphins, et lui, il a été là depuis le début. Donc il s'appelle Alain Dubois, il est quelqu'un d'extraordinaire, et quand vous lui parlerez, vous verrez qu'il a des étoiles dans les yeux et qu'il a une vraie passion pour son travail.
Quand j'ai commencé, on n'avait que 2 bateaux sur le site. Donc, de bouche à oreille, ça est devenu une activité lucrative. Donc, il y a pas mal de gens, pas mal d'opérateurs qui se sont intéressés. Et d'année en année, maintenant, on a quand même 35 à 40 bateaux qui arrivent le matin. Et malheureusement, il y a certains bateaux, certains skippers qui n'ont pas de permis aussi, qui viennent voir les dauphins, qui n'ont pas de formation. Parce que pour aller observer les animaux sauvages, quand même, il faut une bonne formation, et surtout pour l'observation. Donc après la nage, on a des règles très strictes que le gouvernement a mises en place, mais toujours il y a certaines personnes qui ne respectent pas. Donc,
quelles sont ces règles ?
Les règles d'approche, déjà, il faut quand même ralentir à 200 mètres, d'arriver tout doucement sur le site quand on voit les dauphins, et naviguer à 3 nœuds, de rester bien à côté des dauphins, ne pas pousser le dauphin derrière, et attendre les dauphins venir vers nous. Par exemple, si on veut nager, l'équipage qui vous emmène, il faut être 2 dans le bateau. Un des équipages doit avoir un certificat de sauveteur et le premier soin. Donc, si vous êtes dans l'eau, il vous accompagne. Et dans l'eau, on n'a pas le droit de mettre plus que 2 personnes avec un guide. Donc ça, c'est des règles très strictes qui marchent chez nous. Donc, nous, on fait que ça. Et bien sûr, la sécurité des clients est très, très importante. Donc, voilà.
Et comment ça se passe quand on nage avec les dauphins ? Ils restent autour ?
On se met à l'eau, donc on nage comme on nage sur le récif pour observer les poissons. Et là, hop, les dauphins qui passent devant nous, une fois, deux fois. Et donc après 10 ans, quand vous allez sur le site, donc quand vous voyez le dauphin passer à côté de vous, on est quand même, il y a des touristes qui sont surpris, donc de voir des animaux sauvages arriver comme ça. Donc en même temps, les dauphins se sont habitués, si vous voulez, avec cette activité, parce que sinon j'explique pas pourquoi ils sont aussi prêts, pourquoi ils restent dans le coin quand on est là, même malgré le nombre de bateaux.
Vous n'êtes pas inquiet pour le futur de cette activité ?
Oui, inquiet si jamais un jour ceux qui ne respectent pas les codes de conduite, par exemple, s'il y a des bateaux qui arrivent avec 10 personnes qui les mettent d'un seul coup, il n'y a pas de guide, il n'y a rien, on peut avoir un accident et donc ça va répertorier sur tous les opérateurs. Deuxième chose aussi, donc je suis inquiet dans le sens que si jamais les dauphins y passent, ça va être pas bien pour l'activité, si vous voulez. Donc,
il y a un risque quand même que les dauphins partent parce qu'il y a trop de pression.
Pour vous dire qu'à chaque fois qu'on y va le matin, on voit au moins une dizaine de bébés tous les jours qui reviennent avec leur maman. Donc la reproduction se passe bien. Donc si jamais il y avait de grosses pressions, comme vous dites, beaucoup de stress, bon, je crois que le dauphin va plus se reproduire et même ne plus venir. Si après 14 ans, ils sont toujours là.
Est-ce qu'on essaye d'aller voir les baleines?
Vous voulez voir les baleines? Ben, on peut tenter une chance, quoi. Les baleines, ils sont côtiers. Donc, ils viennent vraiment tout près de la côte, c'est-à-dire à 100 mètres de fond. Et là, il y a un peu de vent. Donc, ça peut nous gâcher un peu la visibilité parce qu'on doit voir la baleine souffler, le geyser. Donc, quand il y a beaucoup de vent, ça dissipe très vite. Donc, on peut tenter notre chance et essayer de voir du côté de Tamara si on voit une souffle.
On y va alors?
Ben, on y va.
Finalement, nous n'aurons pas la chance de voir les baleines, mais cette quête du contact avec ces mammifères sauvages nous a remis à notre place. Ce lagon est aussi leur territoire. Espérons que la vision d'une île Maurice durable affichée par le gouvernement va rapidement devenir une réalité. L'île Maurice peut d'ailleurs s'inspirer de sa petite sœur, l'île Rodrigue, où nous vous avons emmené hier dans ses pas du vent. Merci à François Porcheron pour la captation des sons et la réalisation de ce reportage. Merci à Mike, notre chauffeur imperturbable, et à toute l'équipe de l'Agence française de développement pour son soutien logistique. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.